Veche.
Cruzamento da Europa.
Rascrucea Europei.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'Union européenne n'aurait jamais vu le jour sans la réconciliation franco-allemande. Et aujourd'hui encore, l'Europe ne progresse que lorsque Paris et Berlin sont sur la même longueur d'onde. Mais depuis 70 ans, de couple en couple, de De Gaulle et Adenauer jusqu'à Merkel et Macron, la relation franco-allemande est tout sauf un long fleuve tranquille. Et le sentiment de crise ne date pas d'aujourd'hui. L'Allemagne reproche depuis longtemps aux Français leur incapacité à réformer le pays. La France s'agace de la timidité des engagements allemands en matière militaire, de l'éternelle rigueur budgétaire de Berlin qui bloque toute idée de relance européenne. Au moment où les Britanniques claquent la porte de l'Union européenne, le couple franco-allemand est quelque peu désorienté. La France est-elle encore une priorité pour l'Allemagne alors que Paris essaie de rompre son tête-à-tête avec Berlin? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Hélène Millard-Delacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation, spécialiste de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Mathias Feckel, bonjour.
Bonjour.
Avocat, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et ancien ministre sous François Hollande. Hans Stark, bonjour.
Bonjour. Tag,
secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, et professeur à Sorbonne Université. Et en ligne de Berlin, Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le correspondant de Radio France Internationale en Allemagne.
C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que viennent de signer avec Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, le traité de coopération franco-allemand. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde.
L'inimitable voix du général de Gaulle le 22 janvier 1963 lors de la signature du traité de l'Élysée en présence du chancelier Konrad Adenauer. Alors si la signature du traité de l'Élysée symbolise la réconciliation franco-allemande, cette dernière, Hélène Millard-Delacroix, a commencé bien avant grâce à des hommes politiques visionnaire, avec par exemple la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, soit 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ces hommes du côté français, on les connaît, c'est Jean Monnet, Robert Schuman et Guy Mollet, qui n'a pas forcément été un homme politique qui a marqué l'histoire, mais qui a été un Européen de la première heure.
Oui, c'est vrai, vous citez les politiques, c'est important parce que c'est ceux qu'on voit toujours et c'est ceux qui restent dans les livres d'histoire. Il y a aussi surtout tous les anonymes ou moins connus qui ont permis que cette idée d'une réconciliation, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire de changer absolument de paradigme dans la relation entre les deux pays, soit possible. Et ça, ce sont des gens qui, dès 1945, beaucoup sortant de camps de concentration, considèrent qu'il faut changer. Il faut changer, il faut prendre les choses autrement, il faut travailler ensemble, il faut se frotter à l'autre. Alors, la citation qu'on a eue de De Gaulle, là, elle est très connue, on connaît sa voix, il insiste sur la si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat. Je crois que c'est quelque chose qu'avec le temps, on a un petit peu oublié, qu'en 1963, qui n'est pas le début de ce travail commun, on est encore assez près d'une histoire qui a duré plus de 70 ans, depuis la guerre de 70, ça se fait la guerre. Et ce qui paraît un peu, quelquefois même gnangnan, un peu banal, on dit, ah oui, on connaît cette antienne... de la réconciliation franco-allemande, il ne faut pas oublier que ces deux peuples voisins se sont vraiment beaucoup fait la guerre et que si on essaie de se comprendre et si souvent ça ne marche pas bien, on est condamné d'une certaine façon à trouver des solutions ensemble et qu'il vaut mieux le faire de manière constructive avec des dispositifs communs comme ceux que vous avez évoqués, la CECA, puis la construction de ce qui est devenu l'Union européenne.
En sorte du côté allemand, le grand homme, c'est Konrad Adenauer.
Oui. Adenauer a été déjà très franco, très pro-français, très francophile durant l'entre-deux-guerres, lorsqu'il était maire de Cologne. Et au tout début des années 20, il avait même fantasmé sur un éventuel rapprochement de la Rhénanie avec la France. Il avait aussi compris que après 45, qu'il fallait absolument œuvrer pour la réconciliation, pas seulement avec la France, mais avec le monde occidental, les États-Unis et des autres États européens, afin que l'Allemagne fédérale retrouve une place de nation plus ou moins souveraine, mais en tout cas reconnue telle quelle. Bref, il y avait tout un travail pour lui de replacer l'Allemagne après la Shoah parmi les nations civilisées et acceptée telle quelle. Et ça a été un travail absolument fantastique. Et donc, il a beaucoup insisté sur la France. Il y avait un deuxième aspect pour compléter ce que disait Hélène Mire de la Croix à l'instant aussi, c'est que à partir de 47, les Américains se tournent vers de nouveaux conflits, c'est l'URSS, et ils ont finalement besoin de reconstruire la RFA sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan industriel, et ça va beaucoup trop vite pour les Français, et c'est la raison pour laquelle, alors que la France est encore très opposée à l'idée d'un État central allemand avec une capitale, que Paris estime que le risque est grand de perdre la main sur le rétablissement de cette nouvelle Allemagne et de cette refondation, si vous voulez, et donc il fallait œuvrer par un rapprochement avec la RFA pour garder un contrôle sur elle, ce qui peut paraître assez contradictoire, mais cela a permis en effet le plan Schuman sur le charbon et l'acier. C'est pas que une idée d'amitié, de réconciliation, etc.
Il y a du pragmatisme
et de pragmatisme. Oui, c'est très très pragmatique. Il s'agit d'éviter que l'Allemagne devienne l'allié industriel des États-Unis.
Alors Mathias Feckel, j'ai dit que vous avez été ministre de François Hollande. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous étiez l'unique ministre à avoir la double nationalité française et allemande. Vous êtes né en Allemagne, vous avez grandi en Allemagne. Et votre première langue maternelle, c'est plutôt l'allemand que le français.
Les deux sont à égalité chronologiquement. Langue maternelle français, langue paternelle l'allemand.
Alors, faut quand même dire que l'idée de départ, c'est plus jamais ça, et ne pas commettre les erreurs du traité de Versailles, qui scelle donc la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui porte en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale.
Keynes avait tout de suite, après le traité de Versailles, écrit des livres assez lumineux là-dessus, en disant en quoi, évidemment, il y avait des responsabilités à établir, mais en quoi la manière dont c'était fait allait conduire à une crise majeure et avec des conséquences politiques désastreuses, ce qui n'excuse rien d'ailleurs, mais ce qui explique les difficultés économiques des années 20 et tout ce qui en a suivi. Alors, il me semble, j'ai évidemment pas connu cette époque et vos autres invités non plus, mais que face à l'horreur absolue qu'a constitué la Shoah, qu'ont constitué les camps de concentration, il y a d'abord eu une sorte de prise de conscience universelle et de se dire plus jamais ça. Et de se demander ensuite comment on pouvait faire. Et c'est à partir de là que les pères fondateurs de l'Europe ont progressivement inventé cette idée très forte, très puissante, de dire on va lier la France et l'Allemagne et ensuite d'autres États européens par des mécanismes économiques tellement puissants, par une intégration économique tellement puissante qu'il deviendra de fait impossible de se faire la guerre parce que plus personne n'y aura intérêt et qu'une nouvelle guerre viendrait détruire irrémédiablement les deux pays. Et donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui a déjà été un peu effleuré, c'est le rôle des sociétés civiles. Ce qui a été très puissant aussi et qui, à mon avis, aujourd'hui est plus affaibli, c'est que dans les écoles, dans l'éducation, dans tout un tissu associatif, c'est progressivement développé l'idée aussi qu'il fallait développer la connaissance mutuelle des deux pays, que les Français devaient mieux connaître les Allemands et inversement.
Notamment les jeunes avec la création de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
Alors qui continue à travailler, mais on peut pas dire quand même aujourd'hui, dans aucun des deux pays, qu'il y ait un souffle particulièrement fort, au-delà de circuits franco-allemands bien déterminés, bien connus et bien rodés depuis de longues années. Donc il y a un travail important aussi à faire d'apprentissage de la langue de l'autre.
Et découverte.
De découverte, de connaissances. Même chez des personnalités qui travaillent beaucoup, que ce soit en politique, en économie ou ailleurs, avec l'autre pays, il y a quand même beaucoup d'a priori encore, beaucoup de préjugés et de méconnaissances.
Hélène Mire de la Croix, le traité de l'Élysée, c'est le moment symbolique. Il n'y a pas tant de choses que ça dans ce traité. Il y a une bonne volonté, des intentions. Voilà, c'est avant tout un symbole.
Alors, il faut séparer la raison pour laquelle il a été signé, donc un contexte très particulier, du contenu et de ce qu'on en a fait. Parce que vous savez, des traités qui vont dans les tiroirs et dont on s'occupe pas beaucoup, ça existe. Donc, ce qui est assez miraculeux, c'est ce qu'on en a fait. Parce que si on veut rappeler très très rapidement pourquoi De Gaulle attire finalement Adenauer à signer ce traité qui au départ ne peut pas du tout être un traité, c'est un accord, c'est que la France se trouve dans une situation assez difficile en Europe. Il faut se rappeler que De Gaulle était assez hostile à la façon dont avait été construite l'Europe pendant la 4e République et que lui voulait une Europe beaucoup plus intergouvernementale, qu'il avait essayé par les plans Fouché de modifier, de réduire la supranationalité en rétablissant plus d'intergouvernementalité, pour dire les choses rapidement, et qu'il avait échoué. Et que l'autre obsession de De Gaulle était l'inquiétude face à une attitude paternaliste, autoritaire et interventionniste des Américains en Europe, notamment sur des questions nucléaires, en gardant la possibilité de l'usage d'armes nucléaires et en laissant les Européens être le champ de bataille. Et donc l'association de ces deux souhaits a conduit De Gaulle à dire on va miser dans le cadre d'une vision européenne beaucoup plus autonome sur un rapprochement des Français et des Allemands. Donc on va attirer un peu les Allemands, les sortir de cette dépendance absolue des États-Unis pour construire sur un cœur franco-allemand une Europe qui soit plus à l'image de De Gaulle. Comme on le sait, il y a eu les députés allemands ont rajouté un préambule au moment de la ratification qui a à peu près vidé de son contenu la chose.
Et qui a beaucoup fâché le général de Gaulle à l'époque.
Qui a beaucoup fâché le général de Gaulle. Sauf que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a fait avec le traité, qui depuis a été enrichi, amendé, amélioré, et maintenant il y a des dispositifs très nombreux. Mais l'idée de base qu'il faut conserver, parce que c'est en fait l'idée géniale, est de dire on va, même si on n'a pas envie, on va se parler. On va être obligé de se parler à différents niveaux, de plus en plus souvent d'ailleurs dans les niveaux inférieurs. Aujourd'hui, on a développé des systèmes d'échange de fonctionnaires qui sont en permanence là.
De députés, par exemple.
Mais pas seulement de députés. Vous avez dans les plus grands ministères, vous avez en permanence un fonctionnaire allemand qui est dans le ministère français et un français du côté allemand et qui fait partie de l'équipe normale et qui doit dire régulièrement « Ah oui, mais en Allemagne, on voit pas ça comme ça. » Ou « Si on dit ça comme ça, en Allemagne, on le comprend autrement. » Donc cette idée qui est de dire on se parle souvent pour connaître l'autre tellement bien qu'on intègre, au moment où on élabore une stratégie et une décision, on intègre les difficultés, ses limites, ou alors ses souhaits, ou alors ses faiblesses. Et ça, c'est en cela que ce traité reste un symbole, pas seulement à cause des belles images qui font pleurer un peu dans les chaumières, mais parce que c'est ça la clé de ce qui est arrivé jusqu'à notre temps présent, à beaucoup plus nombreux, partenaires beaucoup plus nombreux dans l'Union européenne, mais c'est ça quand même l'idéal qu'il faut rechercher.
La relation franco-allemande, c'est aussi une relation de couple, et des couples ont été très nombreux, alors je les cite évidemment vite fait. Évidemment, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, Georges Pompidou, Willy Brandt, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, François Mitterrand et Helmut Kohl, Jacques Chirac avec Gerhard Schröder, Nicolas Sarkozy avec Angela Merkel, François Hollande toujours Angela Merkel et Emmanuel Macron encore Angela Merkel. Alors cette notion de Pascal Thibault, cette notion de couple franco-allemand, je crois que c'est une invention. Ça date de Valéry Giscard d'Estaing et de Gerhard Schröder. C'est une notion plus française, je crois. En allemand, d'ailleurs, on ne dit pas couple franco-allemand, hein. Il y a une autre expression.
Oui, effectivement, ici, c'est une expression qui est peu utilisée, peut-être parce qu'elle relève plutôt d'un registre latin un peu plus sensuel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on privilégie le terme de partenaire, par exemple, enfin quelque chose de plus neutre, de plus peut-être un peu froid, diront certains, que celui utilisé en français. Et on est sans doute moins enclin aussi à insister sur l'importance des couples et sur les personnalités et leur qualité et leur travers peut-être dans cette relation bilatérale.
Alors un couple qui produit des images en 1984 devant le Sphère de Deux-Monts, François Mitterrand et Helmut Kohl se donnent la main. Alors là je m'adresse à celui qui était peut-être enfin je sais pas, c'était un geste spontané ou ça a été pensé par les conseillers respectifs?
Non, ça a été, paraît-il, un geste vraiment, vraiment spontané, parce que les deux étaient envahis par les émotions devant l'immensité de fête d'Ouaumont. Lorsqu'on s'y rend, d'ailleurs, il faut vraiment que tout le monde s'y rende à un moment donné dans sa vie. C'est absolument énorme, ce symbole. Mais il y avait aussi, là encore, un prélude. Et le prélude, c'était les plages de Normandie, parce que Mitterrand et Kohl avaient envisagé, à un moment donné, que déjà une embrassade en 1984 sur les plages de Normandie, et un des deux s'est finalement rétracté. On ne sait pas. Enfin, c'était sans doute un peu des deux côtés, mais Cole avait vraiment des difficultés d'accepter une éventuelle invitation parce que dans la campagne électorale, il y avait déjà un peu comme aujourd'hui avec l'AfD, une frange très à droite en Allemagne qui émerge au milieu des années 80 avec le Parti des Républicains et qui aurait compris ce geste comme une trahison à l'égard de l'héroïsme des soldats allemands tombés en 1944. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs les tombes sur les cimetières de la Wehrmacht en Normandie, on voit qu'il n'y a que des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, et c'est assez effroyable. Bref, donc il y avait ce prélude-là, mais pour Mitterrand, il fallait vraiment commencer par 14-18, qui n'a pas la même importance dans la mémoire collective des Allemands, parce que pour eux, la Grande Guerre, finalement, c'est la deuxième, et c'est pas la première. Alors que pour les Français, tout découle de la première, qui est la véritable Grande Guerre. Donc là, c'est un autre malentendu dans le jardin franco-allemand qu'il fallait sans doute aussi crever d'une certaine façon comme un abcès. Et donc, cette réunion est absolument cruciale.
Mathias Fekel, vous aviez 7 ans, enfin je crois, lorsque François Mitterrand tend la main à Helmut Kohl et vice-versa. Vous avez vu cette image à vos parents, à la télévision, ça évoque quelque chose pour vous ? Pas du tout.
Je l'ai tellement vu après que j'ai sûrement l'impression de l'avoir vu, mais franchement, je ne pense pas avoir des souvenirs particuliers de cela. Moi, mes premiers souvenirs vraiment politiques ou historiques concernent le mur de Berlin et la division de la ville.
Ah oui, bien sûr. Et donc, comment se vivait, avant que vos parents, donc binationaux, enfin français et allemands, comment se vivait cette relation au quotidien franco-allemande, votre relation franco-allemande ?
De manière très naturelle, et en plus à Berlin, qui était vraiment la ville de la liberté, de toutes les libertés. Donc, je sais pas. Franchement, pour moi, c'était quelque chose de très spontané.
Très naturel.
Et naturel, oui, ouais. Oui, bien sûr.
Le franco-allemand, c'est très naturel pour vous.
Oui, puis à Berlin, il y avait une communauté française très, très importante. Il y a encore d'ailleurs une communauté française très importante et beaucoup d'enfants dans une situation tout à fait similaire.
Alors, Anstin, vous voulez rajouter un petit mot, vite fait ?
Très rapidement, parce que je voulais quand même revenir sur vos histoires de couple. Je serai très très bref. Parce que je trouve que dans cette histoire de couple, on ne rend pas suffisamment hommage à la troisième personne, entre guillemets. Parce qu'il y a des couples qui marchent à trois et qui ne peuvent marcher qu'à trois. Et il y avait Jacques Delors dans le couple de Mitterrand-Kohl. Et Mitterrand et Kohl n'auraient jamais fait ce qu'ils avaient fait s'il n'y avait pas eu Jacques Delors. Et dans le couple qui a très bien fonctionné aussi, je termine là-dessus, entre Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, il y avait Raymond Barre. Et si Raymond Barre n'avait pas, à partir de 1986, mené la politique économique qu'il a menée, qui a vraiment rapproché la culture monétaire, économique et monétaire française de la culture économique et monétaire allemande, donc à partir de 76, pardon, pas 86, à partir de 1976, il était donc en poste à Matignon de 1976 à 1981, donc pendant 5 ans, je pense que le tandem Schmidt-Giscard n'aurait pas fonctionné de la même façon. Donc ça, il faut absolument intégrer.
Et Hélène Mire de Lacroix, vous aussi rajouter un petit quelque chose sur ce couple franco-allemand, cette notion.
Ouais, je voulais rajouter quelque chose, surtout sur Verdun, parce que maintenant les archives sont parfaitement accessibles. Quand on va dans les archives de l'Élysée, comme dans les archives de la Chancellerie, on trouve un sommet au printemps 84 où Mitterrand et Kohl parlent d'histoire, et puis c'est Mitterrand qui dit « oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Et Kohl dit « on devrait se retrouver dans un cimetière ». Mitterrand dit « oui, c'est une très bonne idée ». Et juste à ce moment-là, on apprend que finalement, Kohl ne va pas aller au fait sur les plages de Normandie et que l'Allemagne est exclue. Et là, Mitterrand dit « nous allons nous retrouver avec les Américains, les Britanniques, nous allons fêter notre proximité ». Et puis après, nous allons aller voir à un sommet les Japonais et les Allemands. Je n'aime pas ça. Sous-entendu, il n'est pas normal que nous excluions ainsi les Allemands et les Japonais. Et donc, il a pensé la rencontre de Verdun comme une façon de réparer cela, alors que ses conseillers, c'était un de ses conseillers qui s'appelait Pierre Morel, qui avait dit, il faudrait au petit matin faire une promenade sur les plages de Normandie avant que le soleil se lève et avant que les Américains et les Britanniques viennent. Mitterrand a balayé ça d'un revers de la main. Il a préféré ce symbole extrêmement fort en termes d'histoire parce que Kohl et Mitterrand étaient tous les deux extrêmement pétris d'histoire et conscients du caractère, de guerre civile qu'avaient été les guerres en Europe.
La relation franco-allemande, des images, des symboles et puis aussi le terreau de la construction européenne. On va voir tout ça dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe et tout de suite on fait une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, justement. À tout de suite.
Розумію туди Європа.
Розкруча Європи.
Ставродроми тіс Європіс.
Трефпункт Європа.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'Union européenne n'aurait jamais vu le jour sans la réconciliation franco-allemande. Et aujourd'hui encore, l'Europe ne progresse que lorsque Paris et Berlin sont sur la même ligne. Mais depuis 70 ans, de couple en couple, de De Gaulle et Adenauer jusqu'à Merkel et Macron, la relation franco-allemande est tout sauf un long fleuve tranquille. Et le sentiment de crise ne date pas d'aujourd'hui. L'Allemagne reproche depuis longtemps aux Français leur incapacité à réformer le pays. La France s'agace de la timidité des engagements allemands en matière de défense. De l'éternelle rigueur budgétaire de Berlin qui bloque toute idée de relance européenne. Alors à un moment où les Britanniques claquent la porte de l'Union européenne, le couple franco-allemand est quelque peu désorienté. La France est-elle encore une priorité pour l'Allemagne alors que Paris essaie de rompre son tête-à-tête avec Berlin? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Hélène Millard-Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation, spécialiste de l'Allemagne contemporaine à l'université Sorbonne Université. Mathias Feckel, avocat et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et ancien ministre. Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, et professeur à Sorbonne Université. Et Pascal Thibault, correspondant de Radio France Internationale en Allemagne, il est en ligne de Berlin. Alors on a beaucoup parlé au cours de la première partie de ce couple franco-allemand. C'est vrai que ça marche ou ça marche pas. Il y a de temps en temps des différences politiques, mais ça pose pas forcément de grands problèmes. Et puis il y a surtout la dimension personnelle qui est essentielle, Hans Stark.
Oui. Non, depuis quelques années, il faut le reconnaître, le franco-allemand, il est en berne. Alors ça tient toujours, hein, ça tient toujours parce que d'abord c'est un corset pour l'Union européenne. Vous avez dit au début de l'émission que sans la réconciliation franco-allemande, l'Union européenne n'aurait pas vu le jour. Mais sans l'Union européenne, la réconciliation franco-allemande n'aurait pas vu le jour non plus. Donc c'est les deux sont totalement liés et on a besoin donc l'un de l'autre. France et l'Allemagne, pour pouvoir agir à l'échelle de l'Union européenne. Mais maintenant, nous avons, et heureusement, acquis un degré d'intégration tel, à l'échelle de l'Union, que maintenant, tous les progrès à venir vont toucher au cœur de notre souveraineté étatique, que ce soit la défense, que ce soit les frontières extérieures, que ce soit la justice, que ce soit la monnaie depuis très longtemps déjà, le budget, et j'en passe. Et dans la mesure où, on veille jalousement sur nos acquis en matière de souveraineté nationale et que par rapport à l'opinion publique, c'est pas toujours facile à vendre de se dire bon, on va faire des transferts de souveraineté. Et que deuxièmement, et peut-être surtout que nous avons des conceptions en France et en Allemagne très différentes de ce que c'est la souveraineté de l'État et le rôle de l'État dans l'économie, etc., et ben on se heurte à des difficultés absolument croissantes. Et je suis, à titre personnel, plutôt pessimiste, même si on garde toujours le lien franco-allemand à la fois parce que c'est un corset, premièrement pour l'Union et deuxièmement parce que nous avons des enfants ensemble. Et puis, il faut regarder aussi ce que vont dire les voisins si jamais on divorce.
Alors, avant de constater que ça va pas si bien que ça, Hélène Millard de la Croix, de temps en temps, quand ça marche bien. Par exemple, quand y a une bonne entente entre le président français et le chancelier ou la chancelière allemande, ça marche bien. En 86, par exemple, ça donne l'acte unique. En 1989, la monnaie unique, la brigade franco-allemande. Quand ça marche, la relation franco-allemande progresse et l'Europe aussi.
Mais c'est ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est qu'on a en effet l'impression d'un levier et d'une capacité d'entraînement. C'est pour ça que beaucoup ont dit qu'on n'aimait pas le moteur parce que ça fait très mécanique, sauf que c'est comme des chaînons qui s'enclenchent ensemble et qui fonctionnent. Alors en même temps, il faut faire attention de ne pas idéaliser le passé et de dire qu'autrefois on s'entendait bien et qu'aujourd'hui ça ne va plus. Si on regarde de près l'histoire des relations franco-allemandes, c'était toujours un mariage quand même un peu étrange parce qu'il faut bien reconnaître qu'à l'intérieur de l'Europe. Alors, depuis l'élargissement, on peut dire peut-être un peu moins cela, parce qu'il y a certains pays de l'Est de l'Europe qui sont assez éloignés de nous, mais que quand même, à l'intérieur du socle de l'Europe, ce sont même deux pays très différents, qui ont des structures différentes, des mentalités, entre guillemets, très différentes, et que c'est toujours assez miraculeux quand on arrive à faire marcher les choses. Alors, ce que vous soulignez, c'est vrai, c'est que la capacité d'entraînement du vouloir réussir, du vouloir faire, a été prouvée. C'est pour ça que beaucoup d'observateurs en veulent un peu, notamment à Angela Merkel, de ne pas avoir pris la main tendue par Emmanuel Macron en 2017. Et réciproquement, on peut s'en vouloir parce que c'est vrai que l'engagement et l'idée, comme disait Mitterrand, faites. Il disait aux gens qui travaillaient avec lui, faites, débrouillez-vous, il faut que ça marche. C'est quand même le gage. Alors en même temps, 84, 85, bon, l'époque de Kohl et de Mitterrand, on était dans un autre monde. On est avant la chute du mur de Berlin, on est dans une structure bipolaire.
On n'a pas encore inventé la Chine, l'Inde et le Brésil.
Voilà, les États-Unis se comportaient pas du tout de la même façon vis-à-vis de l'Europe. On n'avait pas la Chine. Enfin bon, donc c'est vrai que on peut toujours dire que c'était mieux avant. Je pense que il faut essayer d'en tirer les enseignements, notamment en termes de capacité d'entraînement de ceux qui veulent faire, et en même temps accepter qu'aujourd'hui les données du problème sont différentes.
Madame Sokal, vous avez vécu la relation franco-allemande de l'intérieur pendant le quinquennat de François Hollande. Ça n'a pas été un moment phare de la relation franco-allemande. Hein. Le couple, comme on dit entre guillemets, François Hollande et Angela Merkel, c'était pas le plus spectaculaire, même si on a évidemment encore en termes d'image le moment où Angela Merkel pose sa tête sur l'épaule de François Hollande lors des attentats de 2015. Vous avez vécu de l'intérieur comment cette relation franco-allemande ?
D'abord, je pense qu'il recherchait pas forcément de spectaculaire, mais ce qu'on constate, c'est tout au long, je dirais, depuis quand même facilement une vingtaine d'années maintenant, un désalignement des deux pays. C'est-à-dire avec une succession de malentendus. D'abord, il y a des cycles économiques qui n'étaient pas ajustés. Ça compte pour beaucoup. Ensuite, il y a eu des malentendus, un peu de méfiance, enfin, en tout cas un manque de confiance. Moi, ce qui me frappe quand on regarde les mémoires ou qu'on écoute les grands témoins d'avant, c'est qu'il y avait toujours, entre le président français et le chancelier allemand, des temps, il prenait beaucoup de temps pour échanger, parler, sans conseiller, sans presse, sans communiquer à la fin. Et du coup, chacun connaissait exactement les limites de l'autre et les possibilités de l'autre. Et à chaque fois qu'il y avait une prise de parole, il y avait une très grande attention de ne pas mettre l'autre en difficulté, de pas proposer des choses qui sont impossibles de par sa situation de politique intérieure ou de par son histoire ou de par son inconscient collectif national. Et ça s'est perdu progressivement. Et donc on constate maintenant deux séries de problèmes. D'abord, on reste sur un désalignement économique très important, et en particulier l'Allemagne qui s'est quand même beaucoup tournée vers l'Est, y compris dans son export, dans ses relations économiques avec l'Europe de l'Est ou avec l'Asie. Et puis ensuite, ce manque de capacité à se projeter en avant. Et je veux ajouter un dernier point, c'est la fragilisation maintenant très forte du système politique allemand, qui pendant longtemps était parmi les grandes démocraties occidentales vraiment
une
sorte de roc avec une stabilité qui, paradoxalement pour nous Français, émanait d'ailleurs du Parlement. Ce qui donnait la stabilité, c'était un régime parlementaire. C'est pas banal quand on regarde l'histoire de nos républiques successives. Là, c'était le cas grâce à un mode de scrutin très particulier et à des grands partis, les grands partis populaires, comme on les appelle, les Volksparteien, qui donnaient cette stabilité. Mais là, on est à la fin de ce système-là. Sous la pression de l'extrême droite, une centaine de députés d'extrême droite, dont certains ouvertement néo-nazis, qui déstabilisent complètement le système. Sous l'impact aussi de la fragilisation de la société allemande, avec une paupérisation importante, avec des inégalités entre l'Est et l'Ouest qui demeurent extrêmement fortes. Tout cela crée une pression extrêmement forte dans une situation par ailleurs de fin de règne aujourd'hui de la chancelière, qui fait qu'il n'y a plus de capacité d'initiative politique forte, il n'y a plus de capacité d'entraînement aujourd'hui de l'Allemagne dans ce contexte.
Pascal Thibault, vous qui voyez la relation franco-allemande et qui nous l'a raconté de Berlin, quand on entend Matthias Fekel, on a l'impression finalement que ça patine. C'est ce que vous ressentez aussi, le fait que on s'enlise petit à petit. C'est un mot que vous employeriez?
Oui, c'est un petit peu le sentiment ambiant aussi de ce côté-ci de l'Allemagne, que peut-être il faudra attendre même la fin du règne d'Angela Merkel pour qu'on ait peut-être un nouveau dynamisme. On a même vu les trois prétendants à la succession d'Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête de la CDU prendre des positions favorables à celles, je parle des position sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Après, on verra ensuite si c'est uniquement rhétorique ou non. Mais on a un petit peu l'impression que les choses sont un petit peu figées. Il y a effectivement cette fin de règne dont on vient de parler à l'instant. Le fait que aussi le système politique allemand fait qu'un chancelier ou une chancelière a des marges de manœuvre beaucoup moindres que celles d'un président français qui peut, pour simplifier, plus ou moins décider seul, avec des coalitions qui deviennent de plus en plus complexe à former, avec aussi la nécessité de trouver des accords avec un Parlement et ses deux chambres qui sont sensiblement plus forts qu'en France. Bon, tout ça fait aussi que les marges de manœuvre d'Angela Merkel sont moins importantes, mais c'est vrai aussi que ici on a souvent souligné, pour ceux qui étaient disons, partisans d'Emmanuel Macron, que les réponses ont été insuffisantes aux propositions qu'ils ont faites, mais la Macronmania assez généralisée qu'on avait vue dans un premier temps se développer ici, elle a quand même perdu de sa superbe. Il y a aussi de plus en plus de voix critiques contre une politique de cavalier solitaire de la France, contre une politique d'annonce du président français qui ne serait pas forcément profitable à l'avancée des idées européennes pour lesquelles il faut un dialogue. Il faut trouver d'autres partenaires et pas uniquement se contenter de grands discours.
Bah, Emmanuel Macron, justement, je vous propose de l'écouter. C'était le 22 janvier 2019, lors de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle.
Les conflits entre la France et l'Allemagne ont mis le monde à feu et à sang. Et il était de notre devoir d'y mettre un terme définitif. C'est chose faite. Notre ambition commune, désormais, doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde. Ce sont ces nouvelles protections. C'est notre capacité à enfin expliquer, montrer et démontrer que l'amitié entre l'Allemagne et la France, que nos projets communs, que notre ambition pour l'Europe est ce qui protège vraiment. Et ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre en voulant faire bégayer nos histoires.
Emmanuel Macron, difficile d'entendre Emmanuel Macron sans entendre Angela Merkel. C'est pas tout à fait le même jour, c'était un petit peu avant, lors d'une de ces très nombreuses visites à Paris.
Je veux redire ici, au nom du gouvernement allemand, et j'insiste à ce sujet, ma visite à Paris ne relève pas d'un simple rituel. Elle manifeste ma conviction profonde que de bonnes relations franco-allemandes, des relations intenses, amicales, ne sont pas uniquement importantes pour nos deux pays. Elles sont aussi nécessaires et constructives pour l'Europe dans son ensemble. Nous sommes ici dans un esprit de continuité. Et c'est vrai, au vu de notre histoire commune, c'est un miracle que des guerres et des affrontements du passé nous ayons réussi à nouer ces nouvelles relations, et pas seulement au niveau des dirigeants, mais également au niveau de nos peuples.
Matthias Schickel, deux styles différents, hein. Flamboyant, on peut dire, du côté d'Emmanuel Macron, et un peu lyrique, et puis plus structuré, plus, je dirais, au carré, de la part d'Angela Merkel.
Mais la vie politique allemande n'est pas flamboyante et elle ne le recherche pas. Et encore une fois, ça a longtemps fait sa force, c'est-à-dire que les débats thématiques, les débats de fond sont beaucoup plus simples à mener quand vous avez un régime parlementaire où tout cela se fait sous le regard de l'opinion. Et encore une fois, ça c'est quel que soit le président en exercice ou la Ve République, les grandes décisions ne sont jamais débattues puisqu'elles se prennent dans le bureau présidentiel, qu'elles peuvent être prises dans un sens comme dans l'autre et qu'à la fin, vous finissez toujours par trouver une majorité pour les valider. C'est pas tout à fait la même chose, y compris en matière européenne, que de devoir tout soumettre à discussion et à délibération. Donc ça me semble quand même une nuance très importante. On verra si ça perdure, hein, parce que encore une fois, il y a des chocs très forts qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense qu'on les sous-estime en France, des chocs très forts contre le système politique allemand et contre la démocratie allemande elle-même qui sont aujourd'hui portés. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, c'est un paradoxe. On a beaucoup parlé tout à l'heure de tous les modes de concertation qui existaient, en particulier depuis le traité de l'Élysée. Donc on se concerte sur tout. Nos fonctionnaires, nos diplomates, etc., nos ministres ont des échanges permanents et positifs. Il n'empêche que quand il y a des grandes décisions structurantes qui sont prises, généralement, elles sont prises sans aucune concertation. Que ce soit les choix politiques énergétiques, par exemple.
Oui, l'abandon du nucléaire par
l'abandon du nucléaire et nous la transition énergétique, je suis pas sûr qu'il y ait eu de part et d'autre de grandes concertations en matière de politique migratoire et d'asile qui dans les années qui viennent vont demeurer des choix tout à fait structurants pour toute l'Europe. C'est pareil, chacun décide et je pense pas qu'il y ait avant de grandes concertations stratégiques. Donc ça, c'est un manque aujourd'hui très fort sur ces grands choix politiques. Il doit y avoir des... Chacun garde sa souveraineté, évidemment, mais on ne peut pas faire comme si les choix de l'un n'impactaient pas l'autre, voire comme si les choix de l'un ne pouvaient pas annuler purement et simplement ceux de l'autre pays.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, la difficile relation franco-allemande. Nous sommes avec Hélène Millard de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation à Sorbonne Université, avec Matthias Feckel, ancien ministre sous François Hollande, avec Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes et professeur à Sorbonne Université, et avec Pascal Thibault, correspondant de Radio France Internationale en Allemagne. Il est en ligne de Berlin. Hélène Millard de la Croix, je me tourne vers vous, car c'est vous qui êtes toujours la plus positive. Est-ce que finalement, dans cette relation franco-allemande, finalement, il y a une certaine routine parce qu'elle a réussi. Personne ne remet en cause cette réconciliation. Personne, ça viendrait à l'idée aujourd'hui à personne d'envisager quoi que ce soit d'hostile à l'égard de l'Allemagne. C'est déjà une réussite. Et évidemment, quand on a réussi, c'est plus difficile d'aller plus loin.
Alors, on peut, comme dans les familles, considérer que la force de l'habitude a aussi des bienfaits, c'est-à-dire qu'elle forme une espèce d'amortisseur d'un certain nombre de crises qui empêchent de renverser la table et de changer la serrure. Pour autant, je partage ce qu'a dit Matthias Feckel, on assiste d'une part à ces contradictions, qu'on est extrêmement en contact par tous ces dispositifs mis en place et que quand même on prend des décisions sans concerter l'autre, donc vraiment peut mieux faire. Et puis que on est, et ça c'est moi ce qui me frappe énormément, on est dans une période de mutation accélérée de nos systèmes aussi à l'intérieur. Dans ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure, lorsqu'il accusait ceux qui disent des choses fausses sur l'histoire de ne pas servir les Français, les peuples au nom desquels il parle, il faisait parfaitement allusion au développement de ces fake news sur les réseaux sociaux au moment de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, où des partis d'extrême droite en particulier avaient fait circuler des choses absolument délirantes.
Que la France se vendait à l'Allemagne.
Mais voilà, mais qu'on allait donner à l'Alsace, qu'on redonnait l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Et il y a dans ce côté flamboyant que vous avez évoqué aussi une espèce de colère contre cette mise en cause finalement de la valeur de leur discours par des réseaux qui fonctionnent de manière virale et qu'on maîtrise très peu.
Pascal Thibault, est-ce que vous diriez qu'il y a une entente au sommet tant bien que mal, même s'il y a une certaine routine, mais que les peuples ne se connaissent pas, que l'apprentissage des langues respectives décline, qu'il y a peu de touristes français en Allemagne, excepté à Berlin. Les hommes d'État se connaissent un peu, pas toujours si bien comme l'expliquait Matthias Feckel, mais les peuples, pas tant que ça.
Oui et non. D'un côté, il n'y a sans doute pas deux pays dans le monde dont les sociétés civiles ont autant d'échanges à tous les niveaux, scolaires, universitaires, associatifs, sportifs, jumelages de villes dans le monde. Donc, il y a beaucoup de choses qui se fait entre l'Allemagne et la France. On évoquait les fonctionnaires d'échange dans les ministères tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai qu'il y a traditionnellement un déséquilibre, un intérêt moindre du côté français pour l'Allemagne que l'inverse. Ça se traduit dans l'apprentissage de la langue du pays voisin. Ça se traduit aussi dans les chiffres du tourisme. En même temps, on voit aussi que les sondages qui sont régulièrement faits, il y en a encore un qui a été fait en janvier par l'ambassade d'Allemagne en France, montrent que les peuples, à défaut de se connaître très bien, en tout cas, il y a une proximité peut-être plus cérébralisée que sentimentale qui les unit, que en tout cas la France ou l'Allemagne, selon le pays dans lequel on se trouve, est le pays qui est perçu comme le partenaire le plus important, dont on se sent le plus proche et qui, effectivement, avec les difficultés dont on a parlé, peut faire avancer, entre autres, l'Europe.
Hans Stark, évidemment, on l'a cité, le décalage. Emmanuel Macron est encore un jeune président. Angela Merkel est vers la fin de sa vie politique. C'est un décalage qui ne facilite pas les choses. On sent une grande ambition européenne d'Emmanuel Macron. Et on a ce sentiment qu'Angela Merkel ne veut pas bouger grand-chose, rester un petit peu dans une grande stabilité, ne pas remettre en cause les acquis. Ce qui crée quand même un énorme décalage aujourd'hui entre les Français et les Allemands.
Si vous voulez, il y a deux éléments. Je reprends, parce que ça m'a marqué tout à l'heure quand même, les extraits de discours que vous avez choisis. Macron parle plusieurs fois de « l'Europe protège ». On n'est pas dans un dialogue franco-allemand, dans un dialogue Macron-Merkel. On est dans un dialogue franco-français entre Merkel et Le Pen. Parce que Macron dit « l'Europe protège », tandis que Le Pen dit « l'Europe expose ». Expose à des menaces et met en cause notre sécurité, notre manière de vivre, etc. etc. Et Macron dit non, au contraire, elle est là pour justement exercer cette protection dont nous avons besoin. Seulement, c'est tout le discours de Macron, cette protection, elle a un prix. Et là, on rentre dans le dialogue franco-allemand, parce que ce prix, les Allemands ne sont pas convaincus d'abord de la justesse des réflexions de Macron sur l'Europe. Et donc, ils sont là, et c'est ce qui est agaçant d'ailleurs avec les Allemands, parce qu'ils veulent tout de suite savoir combien ça coûte et qu'ils payent. Dans la mesure où l'Allemagne est de loin la principale donc contributrice au budget européen, et que ça va s'aggraver d'ailleurs, ou s'accentuer, mettons, pour être positif, avec le Brexit, nous avons là un vrai conflit en franco-allemand. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il y a évidemment aussi un élément entre Macron et Merkel que vous avez souligné, l'un est jeune, l'autre moins, mais enfin ça c'est pas de sa faute, c'est ainsi. Mais en tout cas, il y a eu quand même depuis 2005, dans le couple franco-allemand, une prédominance allemande qui a été très mal vécue en France. Or, dans les années 2005 jusqu'en 2015, l'Allemagne s'est installée au cœur finalement du débat international, devenu, comme vous avez dit tout à l'heure, le roc du système international, de par sa stabilité, sa richesse, etc. Et la France est devenue le junior partner. Et aujourd'hui, Macron tourne cette page. Et le fait d'ailleurs aussi, peut-être parce qu'il a en tête quand même encore Le Pen, et l'année 2022. Il ne veut pas être le sous-fifre, entre guillemets, de l'Allemagne, ce que Le Pen a plusieurs fois souligné par rapport à Hollande. Et donc, il y a là, je pense, une mésentente, tout simplement, peut-être même pas une mésentente, c'est-à-dire on n'est pas sur la même planète, à bien des égards, sur les questions européennes, sur nos objectifs à long terme, sur nos préoccupations, et très largement aussi, de part et d'autre, prisonniers de nos agendas politiques respectifs.
Mathias Hecker, est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est très exagéré, que l'Allemagne a finalement très peu d'ambition en Europe et dans le monde, si ce n'est de maintenir l'équilibre, être en situation de continuer à exporter beaucoup de voitures dans le monde, en Chine et aux États-Unis, ce qui paralyse quand même l'Allemagne lorsqu'il s'agit par exemple de taxer les GAFA. Par exemple, l'idée d'approfondir la zone euro, ça peut être dangereux, ça peut coûter cher, etc. Est-ce que finalement, l'ambition de l'Allemagne, c'est de devenir une grande Suisse, c'est-à-dire un pays où il fait bon vivre, mais qui n'a aucune ambition sur le plan international, qui n'a aucune ambition ni de responsabilité, ni de puissance?
C'est ce que j'allais dire. L'Allemagne, me semble-t-il, ne se conçoit pas comme une puissance de la même manière que notre pays. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Nous avons depuis toujours à la fois une pensée et une action diplomatique universelle, un message universel et la volonté d'agir partout dans le monde, à travers la francophonie, à travers notre diplomatie, à travers notre armée, et aujourd'hui très engagé dans la lutte antiterroriste. Tout cela n'existe pas du tout de la même manière en Allemagne. En partie, c'est hérité du passé. C'est-à-dire qu'après 45, c'est un pays, un peu comme le Japon d'ailleurs, qui s'est dit, nous avons été une puissance, au pire sens du terme, c'est-à-dire une puissance d'invasion, de soumission, de destruction, de déshumanisation. Et donc nous devons devenir maintenant une puissance pacifique. Et puis ensuite, les principales ambitions allemandes aujourd'hui sont économiques. D'exportation de son modèle économique et de ses produits, surtout, avec une grande avance en la matière. Je veux dire, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'il y a des excédents commerciaux systématiques en Allemagne quand nous avons des déficits.
Considérables.
Considérables. Vous avez plus de 200 milliards d'euros d'excédents commerciaux.
Ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur la vie européenne, bien sûr.
Très, très, très important. Et surtout quand vous regardez où ils vont. C'est-à-dire, auparavant, il y avait une Allemagne beaucoup plus fortement orientée vers la France et la zone euro. Tout ça s'est progressivement érodé. Encore une fois, on se tourne maintenant côté allemand de plus en plus vers l'Est. Et l'Est, c'est l'Est immédiat, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, et l'Est, l'Orient au sens plus classique, c'est-à-dire l'Asie. Donc tout cela, évidemment, s'impacte. Et quand vous conjuguez les intérêts objectifs de l'économie allemande, une partie héritée du passé, plus l'affaiblissement aujourd'hui du leadership politique allemand de par la fin de règne et toute la fragilisation du système politique tel qu'on l'a analysé tout à l'heure, ça fait beaucoup.
J'allais vous demander, parce qu'on arrive au terme de cette émission, une petite idée à chacun d'entre vous pour relancer, conforter, confirmer cette relation franco-allemande, mais avec ce que vous venez de dire, Mathias Hecker, ça n'a rien d'évident. Qu'est-ce qu'il serait possible de faire qui n'a pas été fait aujourd'hui, l'admire de l'accord?
Là, comme ça, à froid, sinon j'attendrai un coup de téléphone de l'Élysée, ou plutôt de la chancellerie, qui serait plutôt originale. A priori, je pense que l'idée reste de se parler le plus possible et d'éviter le réflexe qu'ont aussi les populations, qui est d'abord de juger par le stéréotype avant de réfléchir. Et on le trouve en Allemagne, dans les médias, y compris aussi aux affaires étrangères, des espèces d'a priori sur les Français qui sont actifs en Afrique parce que c'est une ancienne puissance coloniale et qu'ils veulent assurer leurs arrières.
Pascal Thibault, une petite idée, vous qui êtes à Berlin.
Je pense qu'il faut sortir de l'exclusivitisme franco-allemand de plus en plus, surtout après le Brexit et le départ de la Grande-Bretagne, essayer peut-être de développer un format baptisé E3, mais cette fois-ci avec l'Italie, ou peut-être, même si c'est compliqué, avec la Pologne. Enfin, je crois qu'il faut... Et on a vu ces derniers temps que certaines déclarations des uns et des autres ont pu, et surtout du côté français, ont pu un petit peu perturber un certain nombre de pays européens, notamment à l'Est, et je pense que c'est absolument indispensable, plus que par le passé, de travailler en étroite collaboration au-delà de l'axe entre guillemets Paris-Berlin.
Vous faites référence à une réflexion sur l'OTAN d'Emmanuel Macron et sur une divergence sur les Balkans. Hans Stark.
Bon, c'est très facile. Donc, en Allemagne, nouveau gouvernement. Nous sommes en 2021. Madame Merkel va peut-être devenir, je ne sais pas, présidente de République fédérale ou autre chose. On aura une coalition avec les Verts. Monsieur Habeck va être vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères, et très pro-européen d'ailleurs. Et le chancelier s'appelle Monsieur Laschette. Il est né à Aix-la-Chapelle. Il est actuellement ministre-président en Rhénanie-Nord-Westphalie. Il est pro-français, pro-européen, et ça va bien se passer.
Enfin, merci d'avoir consulté votre boule de cristal.
D'abord, beaucoup de choses passent par les sociétés civiles. Je pense qu'il faut renforcer la place de l'Europe, d'une manière générale, dans le cœur des citoyens, à travers des actions très concrètes, l'Erasmus pour tous, les services civiques faits en commun, beaucoup de choses qui s'adressent à la jeunesse concrètement, y compris à la jeunesse qui est aujourd'hui le plus éloignée d'Europe. Puis la deuxième chose, c'est que sur les grands choix stratégiques, il faut des vraies concertations. Il faut des annonces communes sur tous les défis structurants de demain.
Ce qui n'est évidemment pas le cas, on l'a compris. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et la complicité de Nadia Ben Mahfoud. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le podcast sur le tout nouveau site RFI.fr ou l'appli radio RFI Pure Radio, on reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalo, que vous soyez à Berlin, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Musique du monde.